Bienvenue dans ce nouvel épisode où nous allons explorer une curiosité historique souvent méconnue mais fascinante, le calendrier républicain français. Plus qu'un simple système de datation, ce calendrier était une tentative audacieuse de réinventer le temps en l'adaptant aux idéaux révolutionnaires et aux cycles de la nature. Alors, installez-vous confortablement et plongeons ensemble dans cette révolution du temps. Nous sommes en 1793, en pleine Révolution française. La République vient d'être proclamée et avec elle, une volonté farouche de rompre avec les traditions monarchiques et religieuses de l'Ancien Régime. C'est dans ce contexte que la Convention nationale décide de refondre entièrement le calendrier. Le calendrier républicain voit officiellement le jour le 5 octobre 1793, soit le 14 vendémiaire de l'an 2, selon ce nouveau système. Mais attention, ce calendrier ne commence pas là. Son point de départ remonte au 22 septembre 1792, jour de l'équinoxe d'automne et de la proclamation de la République. Ce choix n'a rien de hasard. Il symbolise le lien entre le temps politique et les cycles naturels. Alors, comment fonctionne ce calendrier? Eh bien, il est organisé de manière très différente de notre calendrier grégorien. Une année républicaine est composée de 12 mois de 30 jours, et chaque mois est découpé en 3 décades de 10 jours. Oui, vous avez bien entendu, plus de semaines de 7 jours, et donc plus de dimanches. À la place, chaque mois est rythmé par ces décades avec un jour de repos, le décadi, tous les 10 jours. L'objectif? Supprimer les références religieuses et instaurer un temps purement laïque. Mais ce n'est pas tout. Pour aligner l'année sur le cycle solaire, on ajoute à la fin de chaque année 5 jours complémentaires appelés sans-culottides. Ces jours dédiés aux festivals républicaines deviennent 6 jours dans les années bissextiles. Les noms des mois sont une des caractéristiques les plus poétiques de ce calendrier. Ils ont été inventés par Fabre d'Églantine, poète et homme politique, et chacun reflète la nature et les activités agricoles de la saison. Écoutez bien. En automne, les mois se terminent en R. Vendémiaire pour les vendanges, brumaire pour les brumes automnales et frimaire pour les premières gelées. En hiver, c'est ose. Nivose pour la neige, pluviose pour les pluies et ventose pour les vents froids. Au printemps, les mois prennent une terminaison al, germinal pour la germination des plantes, floréal pour les fleurs en pleine éclosion et prairial pour les prairies verdoyantes. Enfin, en été, on termine par dor, évoquant l'abondance. Messidor pour les moissons, thermidor pour la chaleur et fructidor pour les récoltes de fruits. Vous voyez, ce n'est pas juste un calendrier, c'est presque une ode à la nature. Prenons quelques exemples pour mieux comprendre la correspondance avec notre calendrier actuel. Le premier vendémiaire de l'an 1, jour inaugural du calendrier républicain, correspond au 22 septembre 1792 dans le calendrier grégorien, date de l'équinoxe d'automne. Autre exemple, le 25 octobre 1793 dans le calendrier grégorien correspond aux 4 brumaires de l'an 2, en plein automne, lorsque les brumes sont omniprésentes. Grâce à ces repères, les généalogistes ou les historiens peuvent convertir les dates révolutionnaires en dates grégoriennes, ce qui est essentiel pour interpréter les archives de cette période. Mais pourquoi ça n'a pas duré? Malgré ses nombreuses qualités, ce calendrier a été abandonné. Pourquoi? Parce qu'il était compliqué à appliquer dans la vie quotidienne et peu compatible avec les échanges internationaux, où le calendrier grégorien restait la norme. C'est Napoléon Bonaparte qui décide de rétablir le calendrier grégorien le 1er janvier 1806, soit le 11 Nivose de l'an 14. Ainsi, après 13 ans d'existence, le calendrier révolutionnaire rejoint l'histoire. En conclusion, le calendrier républicain reste aujourd'hui un témoin fascinant de l'ambition révolutionnaire de réinventer le monde jusqu'à la manière dont nous percevons le temps. Il incarne un idéal celui d'un temps harmonisé avec la nature, libéré des contraintes anciennes. Et même s'il n'est plus utilisé, il continue de nourrir la curiosité des passionnés d'histoire et de généalogie. Merci de m'avoir accompagné dans cette plongée dans le temps révolutionnaire. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à le partager et à nous retrouver pour d'autres explorations historiques. À bientôt!